Par la foi, effectivement, Seigneur, tu nous déclares donc vainqueurs, non pas parce que nous dépendons de nous-mêmes, mais parce que nous dépendons de Christ et de son œuvre pour nous. Et donc, aide-nous à encore comprendre la portée de son œuvre, à quel point il est notre exemple, mais aussi à quel point il est celui qui est l'auteur et le pionnier de la foi. Et nous te prions pour toute cette équipe à Louvain-la-Neuve, qu'ensemble, ils puissent glorifier Jésus-Christ, ils puissent dépendre de Jésus-Christ, et ils puissent donc avoir une confiance en Jésus-Christ. Nous te demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, et nous ne voyons que deux versets. Et vous pouvez voir sur le dos de votre feuillet ce que nous allons essayer de voir ensemble. Mais nous allons aussi projeter le texte. Ces deux versets sont tirés de la version du sommaire. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc, le sommaire, versets 1 et 2 du Hébreux, chapitre 12. Parfait. Donc, lisons ensemble. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, gardant les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Comme vous voyez sur votre feuillet, ce matin, nous n'avons qu'une seule exhortation. Terminons la course. Et nous voyons cette exhortation au milieu de ce texte, vers la fin du verset 1. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Mais quelle course devons-nous terminer? Quelle course sommes-nous en train de courir? Bien entendu, il s'agit de la course chrétienne, de la foi chrétienne. Nous sommes appelés, interpellés ici, d'arriver jusqu'au bout de notre course de foi, sans se détourner, sans lâcher, sans se décourager, à un point où nous abandonnons cette course. Et cela peut paraître un peu étrange, je pense, lors d'un culte d'envoi pour Louvain-la-Neuve, de mettre un accent sur la persévérance. Ben, ils n'ont pas encore commencé, ils sont sur le point de commencer. Il leur faut, on dirait, plutôt du zèle, de l'énergie, de cette créativité, et ainsi de suite pour de longues années, n'est-ce pas? Mais le but de cette nouvelle Église, dans la grâce de Dieu, c'est de pouvoir non seulement faire des convertis, mais des disciples de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ? C'est un chrétien qui court avec endurance, avec persévérance. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la victoire les uns contre les autres. Oh, ça c'est un soulagement. Parce que si je devais me comparer par exemple à Robbie, alors je vais être envieux de lui. Mais ici, on n'est pas en train de courir l'un contre l'autre. Qui va franchir la ligne en premier? C'est moi le plus performant de cette église. Non. Cette course, nous devons tous la terminer. Chacun à son rythme, chacun doit franchir la ligne. Nous devons donc tenir ferme dans la foi chrétienne, malgré la pression que nous ressentons dans nos circonstances à nous. Nous devons croire Christ, peu importe les différentes et difficiles circonstances de la vie. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu au chapitre 11, versets 1 et 2, la foi, c'est l'assurance des choses que nous espérons, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et donc, dans ce sens, si vous voulez, c'est comme si cette course est plutôt comme les 20 km de Bruxelles qu'une course aux Jeux olympiques. Car au JO, il n'y a que 3 médailles. Vous le savez, or, argent et bronze. Mais terminer les 20 km, nous avons la joie, je l'ai fait 2 fois, je pense, de ma vie, la joie de recevoir tous une médaille pour nous féliciter de cet exploit. Dans notre prière pour chaque personne qui deviendra chrétien à Louvain-la-Neuve, à travers le ministère de l'Église que nous voulons voir implanter d'ici quelques mois, c'est que toutes ces personnes terminent cette course. Mais aussi, c'est ça notre prière pour chaque membre de cette équipe d'implantation. Robbie, Lizzie, Maeva, Johnny, James et Lou, qui seront tous avec nous le culte prochain, là, à 11h15. Marie-Madeleine, aussi stagiaire à l'IBB. Notre objectif, c'est qu'ils courent dans l'objectif de terminer la course. Alors, ça va impliquer 2 choses. L'une, nous allons développer un peu plus courte cette fois-ci, et la deuxième, un peu plus longue, parce que jusque-là, nous n'avons pas mis beaucoup d'accent là-dessus. Donc, d'abord, pour terminer la course, il faut tourner les yeux vers les autres témoins. Verset 1, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Comme la métaphore déjà employée dans ce verset est celle d'un athlète qui doit terminer sa course, je pense que c'est fort probable qu'ici, dans cette première partie du verset, l'auteur envisage cette nuée de témoins comme la foule qui se trouve sur les bancs, sur les gradins d'un amphithéâtre. C'est comme si nous y sommes sur la piste de la course en train de se battre pour terminer et eux se trouvent autour de nous, tout autour de nous, une nuée de témoins. Ceux qui ont déjà reçu, nous l'avons vu, un bon témoignage de leur foi de la part de Dieu après le chapitre 11. Donc, on parle d'Abel, d'Enoch, Noé, Abraham, on a vu encore aujourd'hui, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Josué, Samson, David, Jephthé et bien d'autres. Ceux aussi qui ont été persécutés pour leur foi, qui ont dû souffrir pour leur foi. Ceux qui, malgré l'improbabilité de ce qui leur a été promis, ont persévéré dans la foi, malgré la pression, malgré la tentation, malgré la souffrance. Et ce n'est pas comme si cette nuée s'arrête avec les personnages mentionnés au chapitre 11 de l'Ancien Testament, car à la fin du chapitre 11, l'auteur nous transporte à la réalisation des promesses qui aura lieu lorsque, avec eux, nous sommes tous, tous chrétiens qui persévèrent, menés à la perfection. Donc cette nuée, ultimement, comprend d'autres qui nous ont précédés, mais comprend encore ceux qui continuent autour de nous à persévérer. Certains, vous savez, lorsqu'ils courent, disent ne pas être trop conscients des spectateurs, ceux qui les regardent. Mais d'autres disent être fort inspirés par cette foule qui les entoure. Quant à moi, je pense que ça dépend. Si je souffre et je sais que j'ai du mal avec la course, alors moi je préfère souffrir en solitude. Okay? Devoir monter, c'est la deuxième fois où je faisais les 20 km, je devais monter. Je sais, c'est une honte même de le dire maintenant. Je devais monter après 17 km l'avenue de Tevuren à pied. Mais quelle honte de devoir faire ça devant mes amis rassemblés sur l'avenue de Tevuren. Oh non, je ne pouvais pas. Mais évidemment, si j'arrive au 17e kilomètre avant de monter l'avenue Tévéronnet, je cours toujours. À ce moment-là, moi, je trouve c'est plutôt motivant d'avoir des amis jusqu'au moment où je serai censé de lâcher. Continuez, continuez, ça va aller, Steve. Ah, super, merci. Alors, si ce matin, vous êtes croyant en Jésus-Christ, disciple de Jésus, alors, c'est-à-dire que nous sommes encore en train de courir cette course. Et c'est super important pour nous de nous rappeler que ces témoins, il y en a. Quel est leur rôle? De nous aider dans la persévérance chrétienne. Et qu'est-ce qui nous empêchera de courir avec persévérance selon ce verset 1? Tout fardeau est le péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Oui, tout fardeau, comme les différentes circonstances qui nous découragent, qui vous découragent pour le moment dans votre vie chrétienne. Question de santé difficile ou question de moquerie de la part des autres, de la famille, des copains. Il y a le côté demandeur de continuer à mettre le Seigneur et son peuple au premier plan dans votre vie chrétienne. C'est difficile de continuer à faire ça avec toutes les différentes choses qu'il y a. Il y a aussi le péché qui nous cerne si facilement. Où est la soif de posséder, de maximiser le plaisir, le confort, d'obtenir ce qui aujourd'hui semble être agréable à l'œil. On en a pensé ces deux dernières semaines. Et lorsque nous sommes exposés à ces fardeaux, à la tentation du péché, souvent à ce moment-là, nous ressentons la solitude. Ah, vous savez, si seulement ces chrétiens à l'église de Woolway comprenaient à quel point mes circonstances sont difficiles. Personne d'autre semble apprécier à quel point je trouve ce péché si difficile. Les autres semblent être semblent ne pas avoir de difficulté avec ça. Mais moi aussi. Mais j'ai du mal à en parler parce que les autres semblent ne pas lutter avec ça. Personne d'autre semble comprendre à quel point les circonstances dans lesquelles je me trouve sont difficiles. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on ressent l'isolement et la solitude, au lieu de s'enfermer, chers amis, dans notre égoïsme, de s'apitoyer de ce qui m'arrive, nous devons tourner les yeux vers les autres témoins. Et j'aimerais souligner cela pour deux catégories de personnes, si vous permettez. Dans un sens, c'est au début et à la fin. Et si vous vous trouvez au milieu, vous pouvez aussi trouver d'autres exemples pour vous. Mais si nous sommes plutôt adolescents, c'est un moment où nous trouvons nos propres marques dans la vie. Et l'instinct humain, c'est de vouloir à tout prix être accepté par les autres. Il est fort probable, en tant qu'adolescent chrétien ici à Bruxelles, que dans votre entourage à l'école, il n'y a pas un grand nombre de chrétiens. Afin de s'intégrer avec les autres, on est sous pression de laisser tomber nos convictions chrétiennes, car elles ont l'air si peu soutenues par les autres. Et donc, si vous vous trouvez dans ce cas de figure, rappelez-vous qu'il y a bien eu d'autres comme vous dans le passé. Il y en a encore d'autres comme vous dans le présent. Des personnes qui ont bien réfléchi à cela aussi. Vous n'êtes pas les premiers. Vous ne prenez pas la décision d'abandonner la foi chrétienne pour un petit gain dans le court terme, sans réfléchir que d'autres ont aussi réfléchi. Cet été, j'étais avec un autre couple chrétien, avec d'autres grands adolescents, maintenant plutôt début des vingtaines. Et l'une de ces personnes est exposée actuellement à la tentation des relations intimes avec quelqu'un qui ne partage pas la foi. Vous savez ce que le Père a dit par rapport à cette personne? Elle doit réfléchir par rapport aux exemples qu'elle a autour d'elle. Exemple dans la famille, exemple dans l'Église, exemple dans la Bible. Ça suffira, on priera pour elle. Mais elle doit réfléchir par rapport à ça. C'est exactement le cas. Parce que si on ne se focalise rien sur nous-mêmes et nos circonstances, on trouve toutes les raisons qu'on veut pour abandonner la foi. Alors la deuxième catégorie, de l'autre côté de la vie, c'est les seniors. Car là aussi, c'est souvent une période où nous sommes exposés à un isolement plus aigu. C'est plus peut-être difficile à faire face à cela. Il y a des contraintes de santé qui empêchent de sortir comme avant. Il y a parfois des pertes des proches qui nous laissent seuls pour une période où on ne ressent plus que jamais le besoin d'être avec les autres. Il y a la solitude lorsqu'on constate que la famille et les plus jeunes, même dans l'Église, ne nous accordent pas le temps qu'on aimerait, car ces personnes-là semblent être toujours trop occupées. Il y a toutes ces petites tâches qui deviennent plus préoccupantes lorsqu'on vieillit. Et du coup, parfois, la foi semble peu utile, trop éphémère. Et on veut juste se concentrer sur aujourd'hui. Tournez les yeux vers cette nuée de témoins. Ne lâchez pas votre espérance dans le Seigneur. Ceci est dans la lignée du verset 25 du chapitre 10, un verset que nous avons cité pas mal ce dernier temps, mais je pense que nous l'avons de nouveau sur l'écran dans le slide qui précède. Merci, Kuhn. Dans verset 25, ici à la fin, « N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous mutuellement, cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Encore cette semaine, chers amis, j'ai eu au téléphone quelqu'un qui me dit qu'elle ne fréquente pas l'Église pour le moment, mais il n'y a pas de souci pour ma foi. Si, si, il y a de très, très grands soucis pour votre foi. Car si vous pensez de ne pas avoir besoin de cette nuée de témoins, vous avez tort. Si vous pensez de ne pas avoir le devoir à votre tour d'encourager les autres par votre persévérance et votre témoignage, vous avez tort. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'être régulièrement à l'Église et donc d'être exposé à des exemples bibliques de personnes qui ont exercé la foi, vous avez tort. Oui, oui, c'est parfois demandeur. C'est parfois difficile de maintenir nos engagements. Nous nous sommes tous un peu différents au sein d'une assemblée. Et parfois, nous n'avons pas envie de voir trop régulièrement l'une ou l'autre personne. Parfois, ça arrive. Mais c'est nécessaire, cette nuée de témoins. Nous avons besoin de tels exemples. Donc, première chose, tournez les yeux vers les autres témoins. Deuxième chose, j'allais dire que je serais un peu plus long pour ce deuxième point. Bon, maintenant on va voir jusqu'où on va. Tournons les yeux vers Jésus. Oui, nous allons tourner les yeux, non pas maintenant vers les autres, mais vers Jésus lui-même. Verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus. Car Jésus, lui, se trouve dans un cas tout à fait à part de tous ces autres témoins. Oui, il est aussi un exemple, on arrivera à son exemple, mais il est bien plus qu'un exemple pour nous. Car Jésus, verset 2, est celui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. D'abord, donc, il est celui qui nous a ouvert le chemin de la foi. Ou d'après d'autres traductions, peut-être vous reconnaissez, il est l'auteur de la foi, ou le pionnier de la foi. Cela comprend le sens d'être le leader, le responsable, comme si notre chef d'équipe dans la course se trouve devant nous. Il mène son équipe dans cette course. Si lui demande de la foi de notre part, lui-même exerce de la foi. Si vous avez la Bible ouverte, vous pouvez trouver le chapitre 2, verset 13 d'Hébreux, où c'est Jésus qui dit « Je mettrai ma confiance en lui ». Donc, il fait lui-même ce qu'il nous demande de faire. Mais le mot aussi comprend le sens non seulement d'être leader, mais aussi d'être le fondateur. Il est l'auteur de la foi, celui qui a ouvert le chemin de la foi. Car ce n'est que l'œuvre de Jésus qui permet que nous puissions placer notre foi en Dieu. Est-ce que vous savez cela? Il n'y a pas de foi chrétienne sans l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour cela, j'aimerais qu'on revienne de nouveau vers Hébreux chapitre 10, verset 19, de nouveau des versets que nous avons lus ce dernier temps. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Comment ? Par le sang de Jésus. » Alors, comment est-ce que quelqu'un entaché par la faute morale, par le péché, comme vous et moi, comment est-ce qu'une telle personne peut-elle se présenter devant un Dieu trois fois saint ? Selon le livre de l'Épître aux Hébreux, est-ce possible, par les sacrifices offerts déjà à maintes reprises par les prêtres de l'Ancien Testament, est-ce possible, par les sacrifices encore offerts aujourd'hui, via le rituel qui se trouve au sein de certaines confessions chrétiennes, est-ce possible par l'extase d'une expérience chrétienne tellement intense qu'on dit qu'on peut ressentir la présence même de Dieu? Non, non. Avoir confiance d'entrer dans la présence de Dieu ne vient que par un seul moyen, le sang de Jésus-Christ. Verset 20 nous dit que cela nous donne un accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Verset 21, c'est lui, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui n'est pas, lui, comme tout autre prêtre. S'il faut faire la distinction. Eux, ils étaient pécheurs eux-mêmes. Eux, ils offraient des sacrifices des animaux. Eux, ils devaient répéter de tels sacrifices. Car ces sacrifices n'étaient rien que des symboles. Mais lui, son sacrifice, c'est lui-même. C'était donc une fois pour tout son sacrifice. Lorsqu'il est crucifié, il ouvre un nouveau chemin. Car le jugement de Dieu tombe sur lui. Et donc, il permet que nous entrions dans sa présence si nous réclamons son sacrifice pour nous. Dans ce cas-là, le jugement qui devait tomber sur nous tombe sur lui. Et ce jugement ne peut pas tomber une deuxième fois. Ce chemin nouveau est ouvert. Nous pouvons donc connaître, verset 22, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Est-ce que vous connaissez le cœur purifié d'une mauvaise conscience? La foi chrétienne offre cela par le sang de Jésus-Christ. Jésus, donc, est le fondateur, l'auteur de notre foi. Sur base de ce que lui, il a fait, nous pouvons donc nous approcher de Dieu. Sans Jésus, cela ne serait pas possible. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Quelle magnifique nouvelle que Jésus permet cela. Alors quoi? gardant les yeux fixés sur lui. Ce qui signifie que l'Église à Louvain-la-Neuve, avant toute autre chose, doit prêcher Jésus-Christ, crucifié. Sans ce message-là, il n'y aura pas de persévérance. Pas en tout cas la persévérance par la foi. En envoyant, je pense, une équipe à Louvain-la-Neuve, nous voulons évidemment plein de bonnes choses pour cette équipe, dans cette ville de Louvain-la-Neuve. Nous voulons un bon accueil par un bon nombre d'habitants de la ville. Nous voulons voir un témoignage positif rendu à leur égard. Qu'ils s'intéressent aux autres, qu'ils prennent en compte les besoins de ceux qui les entourent. Bien sûr, nous voulons cela. Nous souhaitons également qu'il y ait un amour authentique entre eux dans cette équipe. Je viens de lire un article hier nous exhortant d'incarner Jésus dans notre vie de tous les jours, en prenant soin des opprimés, en aimant le prochain. Mais, leur tâche dans le ministère chrétien, c'est de proclamer Jésus-Christ. C'est d'expliquer courageusement le contraste qu'il y a entre Christ et tout autre prétendant religieux. C'est de rendre clair comment Jésus rend les rites religieux inutiles. D'expliquer combien c'est déplacé de chercher une intimité avec Dieu à travers une expérience mystique, musicale. Non, leur tâche, c'est de fixer les yeux sur Jésus. Pour que nous n'ayons jamais envie de chercher mieux ailleurs, parce qu'il n'y a pas de mieux, de meilleur. Jésus, voyez-vous, il est l'auteur de la foi. Mais c'est aussi lui qui mène la foi à la perfection. Venez voir juste quelques versets des chapitres précédents. Chapitre 7, verset 19. La loi n'a rien amené à la perfection. Chapitre 9, verset 9. Les dons et les sacrifices présentés au temple ne peuvent mener à la perfection. Chapitre 10, verset 1. C'est pourquoi la loi ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent de Dieu. Mais Jésus, oui, lui, il a inauguré un nouveau chemin, par son corps, par son sacrifice. Et donc, il mène la foi à la perfection. Car ce qu'il a accompli permet pour ceux qui croient d'accéder à l'objet de leur foi, de se retrouver dans la présence de Dieu pour l'éternité. Tournez les yeux vers Jésus. Ce n'est pas que la course chrétienne donc commence avec Jésus. Oh, c'est bien de commencer avec Jésus, mais termine avec autre chose. Comme si on démarre tout simple et petit à petit, on permet un peu plus de complexité, de maturité, on pourrait même penser comme ça. Mais si cette maturité et complexité nous éloignent des vérités, que maintenant nous les trouvons un peu enfantins, alors nous devons de nouveau fixer notre regard sur Jésus. À la maison, dans la famille, mais aussi dans l'Église. Car Jésus seul mène à la perfection. Comment est-ce qu'il a fait cela? Sa façon unique de se donner sur la croix ouvre pour nous ce chemin nouveau et vivant. Et cette façon-là sert comme exemple pour nous dans notre persévérance. Oui, nous dit ce texte, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Je sais que certaines traductions disent « au lieu de la joie qui lui était proposée », mais je pense qu'il y a de bonnes raisons ici pour suivre le sommaire. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservé. Comme un athlète qui regarde le prix devant lui, Jésus aussi avait en vue la joie de sa récompense. Il espérait, il était convaincu qu'il allait recevoir cette récompense. Il a fait, si vous voulez, le calcul entre ce qu'il devait faire en passant par la croix et ce qui lui arriverait après. Et en faisant le calcul, Il a dit, bien sûr, je vais endurer tant que la croix. Mais il a méprisé sa honte. Au lieu d'être intimidé, embarrassé par ce que les autres allaient penser de lui, en étant exposé à la honte, à la croix, il a réagi avec du mépris, car son regard n'était pas sur ce que les autres pensaient de lui, mais sur son Père et ce que son Père lui a réservé. Car oui, sa récompense, c'était d'être assis à la droite du trône de Dieu. Assis, c'est d'avoir terminé le travail. À la droite du trône de Dieu, c'est d'avoir la plus haute place dans le royaume accordée par le souverain. Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Valait-il donc la peine ce chemin via la croix? La question ne se pose même pas. Bien sûr, bien sûr. Alors pour nous, chers amis, on revient vers le début du verset 1. Les choses qui nous empêchent de terminer notre course sont lesquelles? Tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement. J'imagine les découragements qui se présenteront à Louvain-la-Neuve seront nombreux. Parfois de l'opposition à l'extérieur, parfois des difficultés qui pèsent dans des circonstances personnelles, mais aussi parfois de l'opposition à l'intérieur. Car le péché est toujours là. Ce péché qui chuchote dans notre oreille de s'apitoyer, de se vanter. Mais il faut résister. Il faut résister. Il faut mépriser la honte de réagir autrement. Selon le chemin de la croix, c'est ça ce que nous devons suivre. Avec la joie qui nous est réservée devant nos yeux, avec cette cité céleste, le royaume de Dieu pleinement venu. Avec la promesse que l'auteur de notre foi mènera cette foi également à la perfection. Avec cela en place, nous pouvons rejeter tout fardeau. Courons donc avec persévérance cette épreuve qui nous est proposée. Terminons la course. Prions ensemble. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce sur chacun d'entre nous, de pouvoir terminer cette course, d'être encouragé par cette nuée de témoins, de ne pas penser que nos circonstances sont tellement difficiles que ça justifie un détournement, mais d'être ceux qui fixent nos yeux sur Jésus-Christ. Merci qu'il est l'auteur de notre foi, celui-ci aussi qui la porte à la perfection. Que tu gardes chaque membre de l'équipe à Louvain-la-Neuve en Christ, avec les yeux fixés sur lui qu'il proclame Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ainsi, Seigneur, qu'ils aient devant leurs yeux cette récompense d'être avec toi, de recevoir un bon témoignage de ta part. Suscite encore de la foi, Seigneur, nous te prions, que nous puissions nous débarrasser de tout fardeau, de tout péché qui nous entoure. Et cela, nous te prions, à la gloire de ton nom. Amen.